Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
On te dit jamais, vous voulez être écrivain? Mais c'est formidable, regardez tous ces écrivains qui y arrivent. On vous dit surtout, regardez tous ces gens qui écrivent des livres chez eux et ça ne sort jamais.
Exécuté par
qui?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Ok, donc on est dans ce deuxième épisode.
Ouais.
Dans cette série avec toi, Kalindi. Merci beaucoup d'être là.
J'avale et je te reprends. Oui.
Voilà.
Je bois beaucoup d'eau chaude, il faut dire. Fabrice.
Coucou, on va parler ensemble de ton aventure avec ce roman qui va sortir là dans quelques mois, le 2 mai plus précisément.
Tout à fait, chez aux éditions Lattès.
N'hésite pas à faire
un peu de promo à ma superbe maison d'édition.
Tout à fait. Et en fait, on va discuter ensemble tout au long des épisodes de ce podcast de ton rapport à l'écriture, de ton rapport à ce roman et de suivre un petit peu finalement cette aventure. Incroyable, j'imagine, pour toi.
Ouais, c'est fou, je te jure. Et en fait, c'est ce que je disais à ma psy l'autre jour. Je disais, j'ai envie, là, avant d'être stressée, on parlait du mot stress au précédent épisode, avant d'être stressée, d'être angoissée en me disant, putain, les gens vont lire. En fait, les gens qui sont dans le livre, les gens dont je me suis inspirée pour créer mes personnages, vont le lire, vont se détester, vont me détester. Et avant de me poser toutes ces questions qui vont me faire trembler pendant des semaines.
Pourquoi ils vont me détester?
Bah non, c'est moi, j'envisage toujours le pire, mais oui, ça d'accord. C'est juste moi. Mais avant d'envisager le pire et d'être pénible pendant des semaines et des semaines, j'ai envie de kiffer mon plaisir, de me dire voilà, j'ai un super éditeur dont j'adore la ligne éditoriale, qui font énormément de livres que je lis, que je consomme. J'ai envie de kiffer ce moment, ces quelques semaines où je me dis bah voilà, ils ont dit oui à mon texte, ils ont adoré le texte, ils y croient et on y croit tous ensemble et c'est formidable. Donc là, j'ai envie d'être que dans le kiff.
Waouh. Et ça,
c'est tellement rare quand on me connaît.
C'est énorme. Bravo. Donc ouais, dans cet épisode, on va parler dans le prochain épisode plus particulièrement de ce roman et de ce projet de roman. Mm-hmm. Mais dans cet épisode-là, j'aimerais bien tirer un peu un grand trait sur l'écriture et toi.
Ouais.
Comment ça en est venu? À partir de quand t'as décidé d'écrire? Est-ce que un jour, en fait, t'as toujours écrit dans ta life? Je ne sais pas. Explique-moi.
Je pense que avant de raconter...
Vas-y, raconte.
Tu sais, je raconte jamais juste ce que tu me demandes, Fabrice. Non, avant de te raconter mon rapport à l'écriture, je pense que c'est indispensable de te raconter mon rapport à la lecture.
Okay.
Parce que pour moi, ça vient de là. Faut savoir que moi, avant d'être quelqu'un qui passe sa vie à raconter son existence entière dans les moindres détails, dans tous les micros qui se présentent à moi, j'étais une personne infiniment et maladivement timide. J'étais une petite fille extrêmement timide, extrêmement angoissée. J'ai eu beaucoup de mal, petite, à me faire des copines et des copains. Je suis fille unique. J'ai grandi avec des parents étonnants, chacun dans leur style. Et du coup, j'ai grandi avec des adultes qui m'ont toujours traité un petit peu comme une adulte, qui m'ont fait manger à la table des adultes, qui m'ont fait avoir des discussions d'adultes très tôt. Et donc, je me suis petite sentie plus à l'aise dans les cercles d'adultes que dans les cercles d'enfants. Donc, j'ai été très seule pendant le début de ma scolarité. J'ai eu beaucoup de mal à interagir avec les gens de mon âge. C'est toujours un peu le cas. Je suis souvent amie avec des gens un peu plus vieux que moi. Les vieux me rassurent, en fait. Je sais pas comment te dire ça autrement. Et en fait, petite, j'ai donc trouvé refuge dans les bouquins. Et en fait, quand j'étais petite, j'étais assez taciturne comme enfant. J'étais très sérieuse et presque un peu triste. Et ma mère, ça la désespérait parce que elle m'emmenait tout le temps au parc pour que je joue. Et vraiment, elle s'asseyait. Ma mère, c'est une très grande lectrice. Elle s'asseyait sur un banc, elle disait « Putain, je vais pouvoir ouvrir un bouquin, foutre ma gamine dans le bac à sable et plus m'en occuper. » Sauf que j'allais faire un tour de toboggan. Je revenais m'asseoir à côté d'elle et je disais « Bah voilà maman, c'est bon, j'ai fini. » Elle disait « Putain, mais tu veux pas jouer avec les autres enfants? Tu veux pas t'amuser ?» Et je disais « Bah non, je suis bien à côté de toi. » Voilà. Et j'étais pas une enfant très fun. Et du coup, ma mère m'a appris à lire et à écrire très tôt. Je suis rentrée en CP, je savais déjà lire et écrire absolument parfaitement. J'ai appris à 4 ans. Et c'est là-dedans que du coup j'ai trouvé des mondes pluriels qui me rassuraient, dans lesquels je pouvais évoluer en toute sérénité, dans lesquels je pouvais vivre des aventures que je vivais pas à l'école. Et en plus moi j'ai été, ma maman étant hôtesse de l'air, elle m'a souvent enlevée de l'école pour m'emmener faire des grands voyages et tout. Et je vivais des aventures de fou avec mes parents. Et putain qu'est-ce que je me faisais chier à l'école. Et j'ai détesté ce cadre de la scolarité toute ma vie en fait. Et j'ai fait évidemment mes 17 années d'école. Enfin non, c'est pas ça. Enfin bon, bref, j'ai fait toute l'école, quoi. Oui. Et après, j'ai fait des études supérieures pendant 5 ans. Donc, j'ai quand même été longtemps à l'école et j'ai détesté ça chaque jour.
Même post-bac.
Surtout post-bac, encore plus. J'ai tout détesté. Alors, à la différence que post-bac, après, je pouvais boire des coups et fumer des clopes. C'était le seul truc qui était plus fun, tu vois. Mais avant, le collège, ça a été une période atroce. Et d'ailleurs, en fait, quand j'essaye de réfléchir à cette période-là, je ne m'en souviens quasiment plus. Alors que toutes mes copines sont là, ouais, le collège, machin, je suis là. Je m'en souviens plus tellement ça a été un moment que j'ai détesté dans ma vie. D'ailleurs, j'ai toujours des amis du primaire, j'ai toujours des amis du lycée, je n'ai plus aucun ami du collège. Ça en dit long. Bref, du coup, moi, ça a toujours été là où je me réfugiais. C'était les bouquins. J'ai énormément lu, petite fille. Je ne faisais que ça. Je ne jouais pas avec des poupées. Je ne commandais pas de Barbie. J'en avais rien à foutre. Ce qui m'intéressait, c'était lire des livres. Et c'est tout.
Et tu lisais des livres d'enfants ou
ouais,
déjà
j'ai lu
des
tout. Non, j'ai lu des livres d'enfants longtemps. Après, j'ai lu des livres young adultes. Et puis, à l'adolescence, jeune ado, j'ai commencé à lire à 14 ans des livres d'adultes. Quoi, tu vois.
À la recherche du temps perdu, quoi.
Ouais, en vrai, non, parce que je me suis toujours fait chier en lisant Proust, mais par contre, j'avais une passion absolue pour Zola que j'ai découvert très jeune. Je pense que je devais avoir 12 ans quand j'ai lu ce roman qui est toujours mon préféré à l'heure actuelle. Merde, putain, et ça me fait la même chose que le jour où j'ai interviewé Louis Garrel. Oh putain, Pauline. La joie de vivre.
Ah,
donc,
yes.
Quand j'avais 12 ou 13 ans, j'ai découvert La joie de vivre d'Émile Zola et ça a été mon premier pas dans Zola. Et après, je n'ai plus jamais quitté Zola. J'ai énormément aimé Flaubert aussi quand j'étais adolescente. Et donc, j'ai eu ces lectures un peu précoces par rapport au programme à l'école. Et donc, voilà, j'ai toujours beaucoup lu. Et en fait, un jour à l'école, on nous a proposé de faire on appelait ça écritures d'invention.
Ok. D'accord.
Les écritures d'invention. Et donc, on nous donnait des thématiques et on pouvait raconter un petit peu les histoires qu'on voulait. C'était souvent un petit peu encadré. Un peu ce qu'on fait quand on est plus vieux, quand on fait des ateliers d'écriture. On te propose une thématique avec des mots-clés, etc. Puis tu dois écrire une histoire qui englobe ces mots-clés, etc. Et je me souviens que j'avais écrit cette première écriture d'invention et que je m'étais dit « Génial ! C'est vraiment ce que j'aime faire !» Et par ailleurs, ma mère avait fait l'acquisition d'un des premiers Mac, tu sais, les gros là, avec les gros culs. Ouais. Il y avait fuchsia, vert, bleu. Et nous, on en avait un fuchsia. Et on n'avait pas Internet à l'époque, on avait juste cet ordinateur que ma mère avait récupéré pas cher, je sais plus comment. Et il y avait dessus juste un jeu, je sais plus ce que c'était, peut-être le serpent ou des jeux à la con comme ça, ou le poker, et un traitement de texte. Et là, j'étais là, chambée. Et si je pouvais commencer à raconter mes petites histoires à la maison. Et là, j'ai commencé à écrire des petites histoires, toutes connes, tu vois, des petits chapitres de petites choses. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup faire ça. Et donc, c'était un complément. J'aimais lire et j'aimais écrire à côté. Et je me suis rendu compte que plus je lisais, plus je mettais des mots, plus je mettais des images dans ma tête, et ben plus j'arrivais à retranscrire des images, des couleurs, des personnages dans mes propres écrits.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et bah là, ça a été le début de quelque chose qui m'a toujours amusée et profondément réconfortée. Pour moi, l'écriture, c'est absolument pas un pinsum. Je sais que beaucoup d'écrivains ont un rapport très torturé à leur art. Moi, ça a toujours été que du fun, en fait, d'écrire. Ouais. Et quand c'est pas fun, bah, je fais autre chose. C'est que je suis pas en train d'écrire le bon truc, d'après moi. Et en fait, quand je suis arrivée au lycée, j'ai fait la rencontre d'un prof qui a changé ma life. Et c'est le seul prof que j'ai aimé dans ma vie, et il s'appelle Monsieur Rubin, et je l'aime de toutes mes forces. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé sa boîte mail l'autre jour, je l'ai cherché, je l'ai retrouvé, et je me suis dit que j'allais lui faire livrer une copie de mon roman.
Grave.
En disant, vous êtes une des personnes qui m'a vraiment donné le goût de l'écriture et accentué mon goût de lire encore, de lire des choses plus compliquées. Et Monsieur Rubin, je l'adorais parce que déjà, c'était pas qu'un prof de littérature, c'était aussi quelqu'un qui savait que tous les arts étaient reliés. Et donc, il nous emmenait au musée, il nous emmenait voir, il nous emmenait au cinéma. C'est grâce à lui que j'ai découvert Tout sur ma mère d'Almodovar, que j'ai mis un pied dans Almodovar. Almodovar qui est un de mes cinéastes préférés aujourd'hui, précisément parce que j'aime sa manière de raconter des choses dramatiques, mais toujours avec des pointes d'humour. Et voilà, je le trouve, et pour son utilisation des couleurs que moi j'aime faire aussi. Enfin, mon livre s'appelle Les jours mauves, c'est pas pour rien. J'aime les choses très colorées, et aussi bien au cinéma que dans la littérature, ou en tout cas ce qu'on se figure quand on lit. Et donc, Monsieur Rubin nous faisait faire des exercices super intéressants, et notamment, il nous faisait faire des critiques. Et un jour, on avait été voir une pièce de théâtre, et c'était Roméo et Juliette, mis en scène par les Gérard Gérard, qui était, je m'en rappelle encore, qui était une troupe qui reprenait des classiques de la littérature et du théâtre, et qui en faisait des trucs complètement zinzin. C'était formidable. Et j'avais adoré cette pièce, et nous avait proposé d'écrire une critique. J'avais écrit une critique, j'avais donné ma vie pour cette critique, parce que moi, j'ai jamais voulu être la chouchoute des profs, précisément parce que j'ai toujours détesté les profs. Et là, je m'étais dit, Monsieur Rubin, je l'adore, je veux trop avoir le meilleur texte, déjà pour moi, et aussi parce que j'ai envie d'être sa chouchoute. Et il s'avère qu'il a lu mon texte, et il a dit, Kalindi, tu vas lire ton texte devant toute la classe. Il l'avait imprimé, il l'avait donné à tous les élèves, et ça a été ma première fierté d'élève.
Scolaire. Moi, j'avais,
scolaire. Mmh. J'avais jamais eu de bonnes notes. J'étais une élève très moyenne. Même dans les matières qui m'intéressaient, comme je foutais jamais rien, et que je faisais pas mes devoirs, j'étais vraiment une élève très médiocre. Et ma mère était désespérée, elle était là, Kalindi, tu pourrais vraiment faire un effort, quoi, ne serait-ce que avoir un cahier, tu vois.
Oui, c'est qu'en fait, ça te faisait surtout chier, c'était.
Ah ouais,
oui.
L'école, c'était vraiment horrible pour moi. Et là, c'était la première fois que j'ai eu envie de faire quelque chose de bien, et c'est la première fois que j'ai été gratifiée pour mon travail. La première fois qu'on m'a validé, tu vois. Mmh. Et c'était Monsieur Rubin. Et là, je me suis dit, OK, en fait, c'est là-dedans que je suis bonne. Et après, il nous a fait faire plein d'exercices comme ça, des réécritures, de grands textes. Et j'ai gagné, il avait fait plein de petits concours comme ça. J'en ai gagné deux, je crois. Et à chaque fois, je gagnais des places de théâtre. Et tu vois, il y a des petites choses à gagner comme ça. C'était ultra valorisant. Et ma copine Caroline Chapoteau.
si vous connaissez pas Kalindi, c'est son truc.
Je donne les noms de famille de tous mes amis.
Voilà, c'est ça.
Excuse-moi, tu peux regarder mon chat qui dort comme il est mignon.
Il est mignon, ton chat.
Il est mignon. Et ma copine Caroline, je me souviens, elle avait fait lire mon texte, un de mes textes à sa maman. Et sa maman avait dit, franchement, c'est trop bien comme texte et elle avait obligé Caroline à le mettre dans son protège-cahier parce que Caroline était un cancre à l'époque. Elle avait obligé Caro à mettre ce texte dans son protège-cahier de couverture pour lui dire « Regarde comment il est trop bien ce texte, c'est ça qu'il faut que tu fasses, il faut que tu apprennes à écrire des textes comme ta copine Candy », ce qui est vraiment la pire méthode. Je pense qu'en tes parents, c'est horrible de mettre en compétition tes enfants et les copains de tes enfants, mais bon, anyway. Et donc, c'est là que j'ai aussi vraiment... je me suis dit, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire et j'ai envie d'apprendre à le faire bien. Donc, je me suis dit que j'allais me tourner vers des études littéraires. Et puis, le temps passant, les adultes me disant tous que bah, les études littéraires, ça ne menait à rien. En plus, je voulais aussi être comédienne. En parallèle, j'ai découvert les cours de théâtre. J'ai découvert le théâtre aussi un peu plus pro au lycée et tout. Et en tout cas, je savais que je voulais évoluer soit dans la littérature, soit dans le jeu. Et pourquoi pas faire les deux? Et puis tout le monde m'a dit bah en vrai c'est bouché, t'arriveras jamais à gagner ta vie, sauf ma mère qui a toujours rêvé d'avoir un enfant artiste, qui aurait rêvé d'avoir une fille comédienne, qui m'a toujours dit écoute, quoi que tu veuilles faire, je te le paye du moment que tu le fais à fond. Si tu veux faire des cours de théâtre, je paye des cours de théâtre. Si tu veux faire des cours de littérature, je paye des cours de littérature. Mais je veux que tu sois bonne. Bref, il s'avère que moi j'ai chicken out, tu vois. Et vraiment, je me suis dit, en sortant du bac, je ne me sens pas de faire des études tout de suite. Donc, j'ai pris une année sabbatique, j'ai voyagé, j'ai été galeriste dans une galerie d'art, j'ai fait plein de petits jobs et tout. Et je pense que c'était super important pour moi que je fasse autre chose que d'être encore dans cette école là qui me broyait. Et après, bah en fait, je suis rentrée dans une école de traduction, ne sachant pas trop que faire de mes envies de littérature. Et puis après, je me suis perdue là-dedans pendant des années jusqu'à ce que je me réoriente à 23 ans et que je fasse une école de journalisme. Et là, j'ai commencé à m'amuser en rédigeant des articles, j'ai fait plein de stages. Après, je suis rentrée chez MAD. Mais
tu t'étais orienté vers le journalisme.
M'étais orienté vers le journalisme.
Tomber entre guillemets la
Exactement.
Littérature.
Je me disais en fait, c'est le moyen le plus sûr de gagner de l'argent, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des places en rédaction. J'écrirai, ce sera pas artistique. En plus, c'était terriblement frustrant pour moi de me dire, et je m'en suis rendu compte avec les années, j'étais vachement jalouse des autres. Je sais pas si je saute un peu du coq à l'âne, mais. Je me rendais compte quand j'écrivais des articles sur des cinéastes, des écrivains, etc., que j'étais toujours jalouse de ces gens-là. Mmh. Et quand j'allais interviewer des réalisateurs, des écrivains, quand je bossais pour toute la culture avant de bosser chez MAD, j'étais jalouse, j'étais toujours un peu haineuse.
Ah, yes.
Et en fait, je me suis rendu compte que si j'étais haineuse et jalouse, c'est parce que j'étais pas à ma place et que ce que ma psy me dit toujours, c'est pas grave la jalousie, c'est pas grave l'envie, ça te montre potentiellement là où toi tu veux être. Et donc, je me suis dit, il faut que t'arrêtes de parler des autres. Et il faut
j'ai jamais
toi.
Senti ça chez toi, chez Mademoiselle. Bah, je t'aurais jamais laissé. Tu vois, non mais enfin, c'est bizarre parce que pour moi, ça aurait forcément transpiré d'une manière ou d'une autre dans ce que tu produisais.
Non, je suis assez intelligente pour le cacher, tu vois.
Okay.
Mais non, j'étais et mon ancien compagnon Naël me disait toujours. Cal, arrête d'être jalouse de gens que tu connais même pas, c'est ridicule, tu vois. Enfin, tu peux pas être jalouse de cette réalisatrice parce qu'elle a réussi à écrire un livre, à adapter elle-même son livre. Voilà, et j'étais là, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais j'ai la haine tout le temps.
Ah, yes.
Et j'avais la haine de mes collègues aussi, tu vois, quand Camille, chez Mademoiselle, Fabrice nous a donné l'opportunité de créer, ou non d'ailleurs, des chaînes YouTube.
Ouais.
Et il y avait Camille Laurent qui a eu le courage, elle, de créer sa chaîne YouTube. Hébergée par MAD et elle faisait ses vidéos et tout. Et même si moi j'ai jamais voulu parler de cul sur internet et même si j'ai jamais voulu faire de vidéos YouTube, c'est vrai, ça ne m'intéresse pas fondamentalement.
T'aurais
j'étais
super
jalouse.
Bonne, hein, si je puis me permettre.
Oh, bah t'es gentille, mais.
Non, mais c'est sûr.
Bah c'est gentil.
T'aurais mais... t'as fait un peu, tu serais devenue YouTubeuse en l'espace
mais
de.
Mais je voulais pas faire
de 15
ça.
Jours.
Mais en tout cas, Camille le faisait et avec brio. Et je lui ai avoué hein, plus tard, je lui dis j'ai été fondamentalement jalouse de toi parce que je te voyais faire quelque chose qui t'éclatait, je te voyais être à ta place. Et moi, j'étais pas à la mienne.
Ah, yes.
J'étais encore de l'autre côté du miroir, tu vois. Et en fait, c'était infernal pour moi. Je vivais très mal. En fait, j'ai très mal vécu ma carrière de journaliste et je m'en rends compte a posteriori, maintenant que je fais quelque chose qui m'éclate. Et j'ai eu un peu de burnes qui me sont poussées il y a quelques années. J'étais encore chez MAD et en fait, grâce au aussi à ma collègue Alix. C'est souvent, je trouve, grâce à des rencontres, ça m'aide vachement. Tu vois, j'ai rencontré Alix qui, elle, m'a dit bah, « Moi, j'ai envie d'écrire des histoires. » J'étais là « Bah, moi aussi. » Et entre-temps, j'ai rencontré mon compagnon actuel, Amaury, qui est comédien et scénariste. Et en fait, je me suis dit, je ne veux pas être jalouse de mon compagnon,
ouais,
qui a le courage d'écrire, le courage d'essayer, même s'il n'y arrive pas toujours, et ben il essaye. Je ne veux pas être jalouse de lui, je veux pouvoir être sereine. Et donc, je n'ai pas d'autre choix que de me lancer. Il s'avère que par ailleurs, mon père est mort. Mon père est mort et m'a laissé enfin une opportunité d'avoir quelque chose d'intéressant à raconter. Et c'est terrible parce que vraiment, l'autre jour, je me disais, putain, mais papa, si t'étais pas mort, peut-être j'aurais jamais écrit quelque chose d'intéressant. Ouais. Parce que c'est dans la mort de mon père que j'ai trouvé la matière suffisante pour raconter quelque chose à la fois que j'espère un peu profond, mais surtout joyeux. Enfin, on parlera de ça dans le prochain épisode,
oui,
quand il s'agira de mon roman.
Ce roman en particulier, mais...
Voilà.
Moi, j'ai l'impression, pour l'avoir vécu à tes côtés, hein, parce que c'est très marrant, parce que ton père est mort en l'espace de quelques mois, vraiment très, ouais, très, très rapidement. Et je crois que tu le percevais vraiment comme un roc et comme une sorte de mec insubmersible, quoi, tu vois. Donc,
exactement,
ça a été vraiment très, très douloureux pour toi à plein de niveaux, et notamment au-delà du deuil, c'était vraiment le deuil de l'image de ton père qui pouvait pas
tout
mourir,
fait,
quoi. Voilà.
Ah, ça, s'il y avait quelqu'un que j'imaginais pas mourir, oui, c'était mon père.
Et en fait, ce qui est incroyable, moi, c'est que je t'ai vu t'effondrer. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est incroyable parce qu'en fait, Cal, ça va le libérer d'un truc. Je sais pas de quoi ça va te libérer, mais en fait, ça va forcément te libérer d'un truc. Il y avait plein de trucs. Je crois qu'en toi, il y avait plein de choses que tu voulais prouver à ton père. Et en fait, maintenant, bah, qu'il est mort, qu'il est plus là, t'as plus qu'à te le prouver à toi-même, quoi, finalement.
Mmh, ouais, c'est clair.
Et peut-être que cette histoire, tu vois, où tu disais j'étais pas à ma place et tout, j'étais pas aligné. On a parlé dans l'épisode précédent de ton épisode d'Histoire d'argent où effectivement t'es allé vers le journalisme parce que ça rapportait de l'argent. C'était une façon simple, entre guillemets, pas si simple, mais en tout cas simple d'écrire et de gagner de l'argent. Là où j'imagine que pour toi, peut-être à l'extérieur, la littérature, il y avait un truc, bah, c'était pas à gagner, quoi.
Ah oui, on te dit jamais, vous voulez être écrivain? Mais c'est formidable, regardez tous ces écrivains qui y arrivent. On vous dit surtout, regardez tous ces gens qui écrivent des livres chez eux et ça ne sort jamais. Mmh. Et en vrai, ce sera peut-être un débat plus tard, mais en effet, maintenant que je vois comment fonctionne un petit peu le monde de l'édition et je vois que si t'es pas bien accompagné, c'est très difficile. Je pense que c'est un
bien
exercice
sûr,
qui peut être terriblement douloureux de pondre un truc qui sort de tes tripes et de voir que jamais personne ne s'y intéresse. Ou en tout cas, si on s'y intéresse, on se dit pas, on mise dessus, c'est bon, on le sort, tu vois. Mais en tout cas.
On en reparlera parce qu'il va y avoir un épisode sur ta rencontre avec ton éditeur, etc.
Ouais.
Et c'est vraiment c'est ce dont je veux parler, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression que tu as switché et que tu as décidé d'orienter ton focus vers « Ok, donc en fait, maintenant je suis autrice, je suis plus journaliste et donc je vais faire en sorte de peut-être trouver les bons contacts, de peut-être me mettre en relation avec des gens qui vont pouvoir eux m'aider et en fait de fil en aiguille de finir par tisser un réseau que tu avais
pas du tout, oui.
Non seulement pas, mais en plus jamais eu l'idée que c'était possible que tu le montes, quoi.
En fait, un jour, il y a une porte qui s'est ouverte. Mm. que j'ai ouverte et en fait on peut faire ce qu'on veut. Attends, tu veux dire que les rêves que j'avais, c'est possible de les faire et en fait de voir ce qui se passe. Et je te jure, c'est la mort de mon père, hein. je saurais l'expliquer, mais il faudrait plus de quelques épisodes de podcast, mais il s'est passé quelque chose, en effet, pas au moment de la mort de mon père, mais dans les mois qui ont suivi, dans l'année qui a suivi, où j'ai essayé plein de choses que je m'étais pas autorisée d'essayer. Et ça vaut pour, en effet, écrire, ça vaut pour l'amour, ça vaut pour plein de domaines. J'ai entrouvert plein de portes et fini par complètement les ouvrir. Et je me suis rendu compte qu'une fois qu'on avait passé ce cap-là, en fait, tout est... je sais pas comment dire, mais je crois en l'univers maintenant, tu vois. J'ai commencé à envoyer des trucs en mode, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie d'écrire des séries, j'ai envie d'écrire des films, j'ai envie de réaliser. Et en fait, depuis que je me suis autorisée à me dire que ça pouvait être ma vie, les choses m'arrivent.
Mais c'est pas l'univers, hein, tu sais. C'est juste
le travail.
c'est pas que le travail, c'est juste qu'en fait, à un moment donné, t'as décidé de focaliser ton cerveau sur...
Ouais, c'est ça.
Ce truc-là, parce qu'en fait, c'était toi qui l'avais décidé. Donc effectivement, en fait, d'un coup d'un seul, je crois pas que ce soit l'univers, mais c'est juste, t'as décidé de focaliser ton cerveau sur, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire.
Exactement.
C'est mon but dans X temps, je sais pas quand, mais en tout cas, vraiment, c'est mon but. Et donc, peut-être qu'avant, tu passais devant des opportunités que tu ne voyais pas ou que tu ne daignais pas voir ou que tu te disais, c'est pas pour moi.
Mais
donc, en fait,
raison.
Tu me mettais de côté.
Et tu sais, j'ai cette impression terrible de ne voir clair que depuis ce moment-là. Ça fait 2 ans à peu près que j'ai l'impression de voir tout clairement. Ouais. Comme si j'avais vécu dans un, en tout cas en ce qui concerne ma vie professionnelle, dans un espèce de brouillard où en fait j'allais mal tout le temps.
Ah ouais.
Parce que je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas.
Ouais.
Même si je m'éclatais, attention, je me suis éclatée au taf, mais pas pour les bonnes raisons. Je m'éclatais au taf parce que je m'éclatais avec les gens. Mais c'était jamais pour l'essence même de mon travail. Désolée Fabrice, pour toi qui a été mon employeur.
Mais non, parce qu'en plus, en fait... Moi, ça me ravit que tu sois là où tu es aujourd'hui, parce que dans ma tête, il y a toujours eu ce truc où je me disais, c'est trop petit, mademoiselle, pour toi. C'était, non, mais c'est vraiment, je te jure. C'est-à-dire que pour moi, c'était incroyable, parce que je voyais très bien que c'était une étape dans ton, parce que tu avais une liberté. Enfin, en tout cas, je crois qu'il y avait cette possibilité de pouvoir écrire ce que tu voulais, à quel moment tu voulais. On en reparlera peut-être un peu après, mais tu avais des tas de pseudos sur mademoiselle.
J'ai raconté des histoires, c'est vrai, sous des têtes pseudo, parce que j'étais plus ou moins bon.
Et à chaque fois, c'était brillantissime. Et en fait, je me disais, il y avait toujours un truc en moi qui me disait, mais en fait, c'est trop petit pour elle. Et donc, c'est très
intéressant. Ça me touche beaucoup ce que tu me dis.
Bah ouais. Et tu vois, et pourtant, mademoiselle, je trouvais que c'était cool. Hein. Franchement, c'est pas pour dénigrer le média que j'ai monté. Mais c'est juste, je me disais, mais c'est pas possible, en fait.
Moi, j'ai vécu ce que j'ai pas vécu à l'école. Je l'ai vécu chez Mademoiselle. Donc, non, pour moi, ça a été formidable. Mais c'est grâce à Mad aussi, tu vois. On en parlera après, je pense, parce que je vais partir dans tous les sens. Mais j'ai rencontré chez Mad une personne que j'ai croisée 5 minutes. C'est elle qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui parce qu'elle s'appelle Capucine Delattre, elle est écrivaine. Et c'est parce que je l'ai croisée entre deux portes qu'elle était auditrice d'un podcast qu'on a créé qui s'appelle Laisse-moi kiffer, qu'on a créé chez Mademoiselle. Et en fait, on a créé un autre podcast qui s'appelait 20 ans d'âge. Et Alix voulait interviewer Capucine Delattre parce qu'elle avait 20 ans et qu'elle venait de sortir son premier roman. Je sais plus à quelle édition, Plon, je crois. Et je l'ai rencontrée entre deux portes et je lui ai dit, putain, mais c'est mon rêve ce que tu fais et t'as que 20 ans. Oh, mais je t'envie et je t'admire et je te jalouse à la fois. Et elle m'avait dit, mais quand tu veux, on va boire un café, on en parle. Et Capucine a été une des premières à lire mon texte. Je lui ai envoyé un jour en disant, écoute, Capucine, t'en fais ce que tu veux. Et elle m'a dit, écoute, j'adore ton texte et je travaille dans une agence littéraire pour une des plus grosses agentes littéraires de France et de Navarre. Est-ce que tu veux que je lui fasse lire et potentiellement on te signe? Et mon agent a adoré et donc on a signé. Et c'est grâce à cette personne que j'ai rencontrée 5 minutes que les choses me sont arrivées. Donc vraiment, mademoiselle, pour moi, ça a été un tremplin formidable. Tu vois.
Je viens pas dire l'univers, tu vois, dans ce cas-là. C'est
non,
toi
mais
qui
je te connais un peu quand j'ai l'univers Fabrice.
Non, mais je sais
que
bien. Mais c'est toi qui es allée voir Capucine.
Oui, c'est vrai.
Et qui a osé lui dire que c'était ce que tu voulais faire. Parce que je me souviens très bien que quand tu étais chez Mademoiselle, tu parlais de ce fameux... On va en parler, mais tu parlais de ce fameux roman que tu as écrit. Tu en parlais avec tellement de dédain, t'en parlais avec tellement de violence, t'en parlais avec tellement de... Pour moi, t'étais en train de te tirer vers le bas de façon terrible. Et en fait, je te disais, mais arrête de parler de ton travail comme ça. C'est pas possible, en fait. Effectivement, t'étais gamine, t'étais jeune, mais en fait, c'était pas du tout objectif. C'était tellement dur, c'était très dur envers toi.
Bah, l'autocontrition, moi, c'est ma spécialité, tu vois. Donc, j'en reviens parce que ça va mieux depuis que je suis à ma place. Et puis que j'ai entamé une analyse. Enfin, il y a plein de choses, évidemment, qui se sont... Mais c'est pas... j'ai entamé mon analyse à un moment, à des moments clés aussi. Enfin, et du coup, tout s'imbrique. Et quand j'ai commencé à voir clair, quelques mois après la mort de mon père, qui pourtant, moi, 6 mois après la mort de mon papa, j'ai fait une dépression. J'ai été obligée d'arrêter le travail pendant quelques temps, puis d'être médicamentée, ce qui a duré assez longtemps. J'ai mis un petit peu de temps à m'en sortir, pas tant, mais un petit peu quand même. À l'échelle de ma vie, moi, normalement, je suis quelqu'un qui passe vite à autre chose et j'essaye de... C'est mon mécanisme de survie, quoi.
Ouais, bah tu t'étais effondré là.
Ouais, là, je m'étais effondré quand même. Ouais, ça a été lourd. Et puis, parce que bon, quand on perd quelqu'un, c'est pas que le fait de perdre, c'est l'avant, c'est la maladie. C'est ce que je raconte dans mon roman, hein, d'ailleurs. On en parlera après. Mais oui, ça a été lourd. Et en tout cas, toujours est-il que quelques mois après, j'ai entamé ce... Parce que ce que tu dis, le roman dont tu parles, c'est pas celui-là. Hein. C'est celui d'avant. C'est celui que j'écrivais depuis des années et qui aujourd'hui n'est plus un projet. Et c'est pas grave, ça a été le projet qui m'a permis d'avoir celui-ci, celui qui va sortir aujourd'hui, qui m'a donné un petit peu la confiance, qui m'a donné des clés, qui m'a permis d'essayer. Tu vois, aujourd'hui, je suis en formation de réalisatrice, j'essaye des trucs, ce sera jamais des chefs-d'œuvre, mais je teste. Et ce premier roman qui ne sortira jamais, c'était vraiment histoire d'essayer des trucs. Et aujourd'hui, je pense que j'ai un peu trouvé ma voie dans l'écriture, quoi.
Ok.
En tout cas, c'est formidable parce qu'aujourd'hui, je me sens à ma place et écrire, au-delà de ce que j'écris, tu vois, là, j'ai écrit un texte que j'aime beaucoup pour une micro-édition qui s'appelle Les Petites Ombres. faite par une nana qui s'appelle Anne Pérez, qui est formidable et qui a créé un projet qui s'appelle les missives. C'est des envois de lettres pour une cinquantaine de personnes et elle a demandé à cette autrice de rédiger des lettres qui seront postées chez les gens et tout. Et j'ai écrit un texte qui s'appelle Le pays du père, parce que en fait, même dans ce, là j'écris un autre truc en ce moment, tout ce que j'écris, il y a quand même la figure du père qui revient. C'est un truc qui infuse tout ce que j'écris, tout ce que j'envisage.
On a pour un petit moment là encore avec le daron.
Ouais, je crois, ma psy me dit que c'est vraiment loin d'être résolu. Donc
c'est très bien.
En fait, maintenant à chaque fois que j'écris un projet, mais je me sens tellement bien, je suis tellement heureuse de le faire. Quand le matin, je me lève pour aller au café d'en bas et me mettre à écrire, je sais que je suis à ma place, je sais que je vais bien. Et hier, Quentin, un ami de mon mec, me disait mais c'est pas le truc le plus dur que tu as fait de ta vie, et je lui ai dit je vais te dire quelque chose, écrire ce premier roman, là, enfin ce premier roman montrable, c'est la chose la plus simple que j'ai fait de ma vie. Parce que ce qui a été dur dans ma vie, c'est de me lever tous les jours pour aller à l'école. C'est d'avoir du mal à me faire des amis. C'est d'avoir du mal à exister en groupe. C'est d'avoir du mal à juste parler aux autres. Parce que bon, là, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Mais quand j'étais jeune, c'était vraiment un gros enjeu pour moi. C'était de trouver ma personnalité. C'était de pas exister qu'à travers les deux figures ultra différentes de mes parents. Et j'étais soit mon père, super colérique et super difficile à vivre, soit ma mère, exigeant, soit ma mère, légère, zinzin, et je n'existais qu'entre ces deux, je n'existais que via ces deux pôles. Ouais. Et où était ma place entre ces deux pôles? C'est une quête de tous les jours.
Ah bah,
tu vois,
t'es parti pour un petit moment.
Oui, c'est clair.
Mais c'est cool.
Et du coup, ça, c'était dur. Ouais, ça, c'est dur. Se lever tous les matins pour aller au travail. Quand j'étais vendeuse pendant des années parce que j'arrivais pas à trouver du travail. C'était aller vendre des fringues, me faire parler comme une merde par des gens qui me méprisent. C'est travailler chez Quick. Ouais, ça, c'était dur. Me lever pour aller faire quelque chose que j'aime et dans lequel je me réfugie depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire les mots, les images, les histoires et les personnages, c'est le truc le plus simple et parce que c'est le truc qui me rend heureuse. Et accoucher de mon premier roman, ça n'a été une douleur à aucun moment et ça n'a été que du bonheur, du début à la fin. Il y a eu des zones de doute, des zones d'ombre, on en reparlera sans doute parce que ma mère a lu un passage qu'elle n'a pas aimé, ça m'a bloqué, etc.
Oh. Okay.
Mais en tout cas... c'est le plus gros kiff de ma vie, ça a été cette aventure, le plus grand plaisir de mon existence.
Parlons de ce test adolescent, de ce test d'écriture, de ce test de roman dont tu as parlé un petit peu dans l'épisode précédent, qui a été cambriolé, c'est ça
Ouais.
Marrant aussi, hein, comme fin de comme fin de projet. Un sacré.
Oh, j'ai tant ri en thérapie en racontant ça.
Qu'est-ce qui à l'époque, donc tu racontes que quand tu étais à l'école, tu as fait tes premiers essais d'écriture d'invention, etc., et que tu t'es rendu compte, oh putain, en fait, c'est cool et je peux raconter. Le moment où tu t'es dit, ok, non, mais en fait, en vrai, j'ai une histoire et je vais faire en sorte de la tisser et de me coller dessus, c'est quoi le chemin
de cette première
expérience. T'as eu un déclic? Ouais.
Le déclic, c'est que j'avais pas le choix. C'est Amélie Nothomb, dont on pense qu'on veut, mais que moi j'aime beaucoup, même ne serait-ce qu'humainement. Elle dit écrire, c'est une question de vie ou de mort, en tout cas pour elle. Et moi, quand j'ai commencé à écrire ce roman, j'ai commencé à l'écrire parce que j'ai rencontré un homme dans ma vie qui était beaucoup plus âgé, qui m'a fait beaucoup de mal, qui a fait beaucoup de mal à ma famille, je m'étalerai pas plus dessus, mais en tout cas, à ce moment-là, à un moment donné de mon existence où j'étais en train de me faire maltraiter émotionnellement, physiquement, à tous les niveaux, et où j'étais en construction, et où j'étais en train d'être vraiment abusée émotionnellement par quelqu'un qui avait une trentaine d'années, j'avais pas d'autre choix.
Et t'étais adolescente.
J'étais adolescente, ouais. Je n'avais pas d'autre choix que de l'écrire. Et en fait, ce premier roman, c'est mon histoire avec cet homme-là pendant des années. Et j'en avais fait quelque chose un peu poétique parce que, enfin, ce que j'essayais de faire en mode poétique, c'est que c'était l'histoire de cette fille. Je racontais à la première personne, c'était aussi... en fait, un jour, elle était dans un train et elle voyait un oiseau de paradis passer devant la fenêtre. Elle se dit, attends, qu'est-ce que ça fout là? C'est le plein hiver et c'est la France. C'est un oiseau de paradis fou ici. Et en fait, il y avait le double point de vue, il y avait son point de vue à elle et le point de vue de cet oiseau qui la regarde vivre et qui, elle possède un petit peu la réalité sur son existence à elle, qui se méprend sur cet homme qu'elle aime, enfin, qu'elle croit aimer, bref. Et en fait, pour moi, à ce moment-là, je pense que écrire ce qui était en train de m'arriver, c'était une manière d'y survivre. Donc, d'abord, ça a été un mécanisme de survie, et avant d'être quelque chose de l'ordre du plaisir et de l'amusement. Donc, j'ai pas eu le choix à ce moment-là que d'écrire.
Tu te rends compte comme t'en parlais? En fait, je me souviens très bien qu'à l'époque, t'étais en train de me... Tu me racontais que c'était un peu la genèse de cette histoire et t'en parlais tellement mal. Et je me disais, mais t'es ouf, en fait. T'es en train de... T'es en train de salir, en fait, la genèse de...
Ouais.
Le pourquoi du comment. Et tout à l'heure, dans le premier épisode, t'as dit, c'est la pire chose que c'est... Mais pas du tout.
Mais non, mais parce que pour moi, c'était très violent, en fait. Ce que j'écrivais, c'était violent. Mon regard dessus est forcément ultra violent parce que la personne que j'étais quand j'ai écrit ce texte n'est plus la personne que je suis.
Oui.
Donc, me confronter à la personne que j'étais à ce moment-là, c'est d'une violence infinie.
Aujourd'hui.
Et aujourd'hui. Et je pense que ça faisait longtemps, tu vois, cette histoire, j'ai pas voulu m'en défaire. J'ai voulu l'écrire pendant des années. Hein. Ça a été une histoire que j'ai... Après, c'est devenu autre chose. Si tu veux, ça a pris mille formes et mille visages, cette histoire. Et puis un jour, j'ai laissé partir la personne que j'étais quand j'avais 17 ans. Mmh. J'ai laissé partir cette partie-là de ma vie. J'ai tourné une page, tu vois.
C'était un peu une autothérapie pour toi. T'étais pas en thérapie à l'époque, c'est
J'étais pas en thérapie. Ouais. J'aurais dû.
Oui.
Mais ça a été ma thérapie.
Ouais.
Et aujourd'hui, on m'a volé cette histoire.
Incroyable.
C'est drôle. Et on m'a volé cette histoire. Et en fait, j'en suis très heureuse. Et cette histoire, c'est comme si elle ne m'appartenait plus littéralement. Et moi, quand je dis toujours que j'ai aucun traumatisme, ce qui n'est pas vrai. C'est juste que ma manière de cope avec les traumatismes, petits ou grands, c'est d'oublier. Et par exemple, je suis incapable de te dire ce que j'ai fait les 4 mois qui ont suivi le jour où j'ai compris que je faisais une dépression, quand j'ai eu le deuil, enfin quand j'ai compris que mon père était mort. Et c'est pas tant ça que plein d'autres choses, mais bon, bref, je suis incapable de dire ce que j'ai fait les 4 mois qui ont suivi. Incapable. Et je suis presque incapable de te dire ce qui s'est passé de mes 17 à mes 20 ans au moment où j'ai commencé à écrire ce roman et il était en train de m'arriver des histoires pas marrantes. Donc aujourd'hui, ça n'existe plus. Ce livre ne m'appartient plus. Il n'est même plus en ma possession.
Incroyable.
Physiquement. Et voilà. Mais donc, ouais, ça a été une première expérience thérapeutique et de survie.
Ok.
Et c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Je ne veux plus faire un livre de sujet. Je ne veux plus faire un livre...
De sujet, tu veux dire ?
Ouais, je veux dire... c'était un livre qui tournait autour d'un sujet bien précis, ce n'était pas une histoire.
Ok.
Et c'est plus ce que je veux faire aujourd'hui. J'ai essayé, ça m'a fait du bien, ça m'a aidé à guérir plein de choses. Et c'est mon next étape, tu vois.
Et tu as l'impression que ça t'a donné un peu... Tu disais tout à l'heure... ça t'a donné l'occasion d'essayer, de tester ?
Ouais, carrément. J'ai testé plein de choses, tu vois. J'ai testé... différents styles déjà. Au début, je me souviens que c'était très ampoulé. Forcément, j'avais 17 ans, tu vois. Donc, je voulais mettre tous les mots que je connaissais. J'ouvrais mon dictionnaire, j'étais là, oulala, je vais mettre plein de mots savants. Et puis, après, j'ai essayé un style vachement plus dépouillé, où j'étais là à faire des phrases très courtes, parfois simplement nominales, parfois juste des mots suivis de points. Voilà, quelque chose de beaucoup plus nerveux. J'ai essayé de lier les deux, de voir comment on pouvait... voilà, j'ai essayé de trouver mon style. Et en tout cas, les dernières fois que j'ai relu ce texte, je me suis dit, en vieillissant, que ce dont ça manquait, c'était évidemment d'humour et de légèreté. Mmh. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de réinfuser aujourd'hui. Et que je fais assez naturellement, parce qu'aujourd'hui, je suis en phase avec ce que je suis.
Oui, et puis t'es meuf drôle.
Tu vois. Ouais, j'espère en tout cas, tu vois. Donc.
Ça manque. Ça manque les meufs drôles.
Ouais, tu.
Il en fout. Non, mais c'est vrai, en littérature, il n'y a pas beaucoup de.
Ouais, bah c'est ce que je me dis. Et c'est pour ça que moi, j'ai une autrice que j'aime d'un amour absolu qui s'appelle Emmanuelle Bayamaktam. Ce qui est drôle, c'est que c'est une femme que tu vois quand tu la vois dans les interviews à la télé ou à la radio, elle est tellement. Comment dire, austère. C'est pas un jugement de valeur, hein, c'est juste qu'elle fait très austère, très prof de littérature, tu vois. Et alors que quand tu lis ses textes, c'est d'une drôlerie, c'est à se faire pipi dessus, c'est d'une violence absolue et abominable. Je vous conseille notamment son livre Arcadie, je vous conseille Les Garçons de l'été. Enfin, elle a écrit plein de choses sous son nom, Emmanuelle Bayamaktam, mais aussi sous son pseudo, quand elle écrit des livres très noirs, très violents, sous son pseudo Rebecca Algieri. Et voilà. Et en fait, en lisant notamment Emmanuelle Bayamaktam, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est raconter des choses qui peuvent être très violentes, mais toujours avec un petit peu de second degré, avec toujours ce que j'espère, un petit peu d'esprit. Peut-être que c'est complètement raté, vous me direz celle de mai. Mais, Mais voilà, donc en tout cas, oui, ce premier roman, au-delà de la thérapie, ça a aussi été une manière de tester des choses. Mmh. Mais j'ai testé déjà au lycée, parce que je me rappelle, un jour, on avait eu une écriture d'invention à faire, je ne me souviens plus de la thématique imposée, mais moi, j'avais décidé de raconter l'histoire d'un homme qui, un jour, prenait la voiture avec sa femme, et en fait, il avait un accident de voiture, sa femme mourait, et lui, il perdait la mémoire et la vue. Bon, j'avais 16 ans, quoi. Et en fait, son seul moyen de se rappeler de sa femme et de se rappeler de ses souvenirs des souvenirs de sa femme, c'était de rejouer au piano la musique qu'il écoutait avec elle au moment de son accident de voiture. Et donc j'avais écrit cette histoire et j'avais demandé à mon prof si je pouvais le lire devant toute la classe avec ma copine Samantha Nicolas qui jouait du piano derrière moi et tout. Enfin, tu vois, on essayait des trucs en vrai.
Mais c'est incroyable.
Ouais, c'était cool. Ouais, c'était vraiment chouette. Et donc j'essayais quand même, tu vois, j'essayais quoi. Okay. Donc j'ai toujours essayé de faire de trouver mon style. Et franchement, là, j'ai l'impression que je me suis trouvée. Donc c'est évidemment que ça va être toujours en mouvance, hein, et que sans doute le prochain sera peut-être plus sérieux parce que je me cache souvent derrière l'humour pour pas dire les vraies choses, tu vois. Et je me rends compte en analyse. Souvent, je fais des blagounettes quand j'ai envie de parler de trucs intrinsèquement graves. Mais je pense que les deux peuvent cohabiter, quoi, en tout cas.
Ah bah grave.
Et doivent cohabiter quelque part.
Après, si tu utilises l'humour pour éviter la profondeur, c'est sûr que c'est chiant. Tu peux aller en profondeur.
Il faut un monde où les choses cohabitent, tragédie et la comédie. Enfin, c'est indispensable. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment... Une très bonne comédie, pour moi, c'est une comédie qui compte la tragédie. Et une très bonne tragédie, c'est une tragédie qui fait rire à un moment donné.
Pour moi, les meilleurs films, les meilleurs livres, c'est celle où on rit ou on pleure.
Exactement, voilà. Je suis d'accord.
Les deux en même temps, si la même œuvre réussit de faire les deux, pour moi c'est 5 étoiles sur 5.
Ah bah je suis d'accord.
Ça part.
Pareil.
Voilà, ah bah, on est d'accord.
J'espère que tu vas rire et pleurer devant mon texte, Fabrice.
Que j'ai pas lu, hein, pour les gens. Les gens savent. Je me demandais un petit peu, pour rentrer un peu plus dans le concret, en fait, c'est quoi ta routine d'écriture? Est-ce que tu as une routine d'écriture, tu vois? Est-ce que
tu vas être si déçu?
Bah non, j'en sais rien, je projette rien, c'est juste peut-être pour dire aux gens. Et d'ailleurs, je le sais même pas, puisque moi, tout ce que je te voyais chez Mademoiselle, en tout cas à l'époque, c'était tu te foutais dans le canapé, tu avais ton ordi sur les genoux et tu disais, ah bon, allez, on va écrire, voilà. Et puis ouais, une heure plus tard, il y avait un truc incroyable qui sortait, je disais, ah bah très bien.
ça a pas tant changé. Non, alors non, c'est pas vrai. Comment dire ? Il y a l'idéal de ma routine et ma routine. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai commencé à écrire ce roman-là, qui va sortir le 2 mai aux éditions La Thèse,
bravo.
j'ai commencé à l'écrire en vacances. J'étais en Grèce. Et c'est vrai que moi, pour écrire, j'ai besoin quand même de paix. En l'occurrence, ce que j'écris, c'est vachement relié à des lieux. Des couleurs, enfin tu vois, on y revient toujours, des images, des lieux, des couleurs. Ayant grandi avec une mère qui m'a fait voyager, le voyage infuse absolument tout ce que j'écris tout le temps. Et en l'occurrence, d'être en train de voyager, d'être dans un endroit différent de mon lieu de vie habituel, m'aide énormément à écrire. Et les choses les meilleures que j'écris, j'ai l'impression, je les écris quand je ne suis pas dans mon appartement, quand je ne suis pas à Paris et quand je ne suis pas en France. Donc tu vois, ça réunit beaucoup de conditions pour j'écris quelque chose de bon. Mais en fait, ce que
en vrai,
j'écris...
Non, désolé, si ça devient ton métier, c'est très simple à mettre en place.
Exactement. il faut juste acheter beaucoup de mes livres de sorte à ce que j'ai beaucoup d'argent et que je puisse beaucoup voyager. N'hésitez pas à acheter énormément. Et donc, en fait, quand j'ai pas le choix, c'est-à-dire que quand... alors, donc, je vais reprendre depuis le début. Par exemple, pour ce livre...
T'es obligé d'aller loin ?
Non.
Ou tu peux aller en France au milieu
de
nulle part ?
Exactement, voilà. J'y viens. En fait, au début là, de ce roman, j'étais en Grèce et c'est là que m'est venu le titre des Jours Mauves. Mmh. Et le roman commence par les Jours Mauves et ça commence par une description d'un paysage que j'aime à l'île Maurice. C'était facilité par le fait que là, j'étais au bord de la mer, dans un environnement avec des couleurs très vives, avec du bleu très bleu, un jaune très jaune. Voilà. Là, j'ai commencé à écrire et là, j'ai été super régulière. C'est-à-dire que pendant 2 mois de vacances, tous les matins, je me levais à 6h30. Moi, je travaille très bien très tôt. Donc, j'ai besoin d'écrire tôt le matin. Je suis efficace de 7h du matin à 13h. Après, il faut oublier Kalindi Rampel. Donc,
si tu écris 6h par jour, c'est pas mal. Hein.
C'est déjà pas mal. J'écris pas 6h par jour, plot twist. Donc, si j'ai déjà écrit 3h effectives et que c'est pas tout acheté, je suis très contente. Donc, le matin, je me levais. J'allais nager, c'est très important pour moi. J'ai compris que d'avoir une activité physique me permettait de réfléchir Et c'est Virginia Woolf hein, qui le dit, c'est pas moi, mais pour écrire, il faut marcher. Et moi, surtout, j'ai compris que j'avais beaucoup d'idées quand j'étais dans la mer. Et j'ai toujours eu un rapport à la mer particulier. Je dis toujours que je suis la reine des océans, bref. Et c'est toujours en nageant le crawl, et c'est drôle parce que c'est une discipline que je faisais avec mon père, c'est une discipline de l'enfance, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Du domaine de la régression quand je suis dans l'eau qui me permet de me mettre dans un état propice à l'écriture. Donc voilà, quand j'étais en Grèce et que j'ai écrit une grande partie des jours mauves, j'ai été aidée par le matin, je me levais à 6h30, je nageais une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure, j'allais à la terrasse d'un hôtel à côté de mon bled, de mon truc pourri où je dormais, je me commande un gros petit déjeuner, un thé, je me mettais face à la mer, dos au vacarme, dos au monde, et là je commençais à écrire, j'écrivais quelques heures, et après l'après-midi je pouvais faire plein de choses qui me permettaient, parce qu'en fait franchement les jours mauves ça a été une espèce de transe, c'est-à-dire que je n'ai pensé qu'à ça pendant des mois. Et donc l'après-midi, même quand je faisais d'autres trucs, j'y pensais, ça courait dans ma tête, parce que
ça infusait
ça infusait exactement, et voilà. Et en fait après il a fallu me confronter au fait que j'ai pas pu écrire ce bouquin aussi rapidement que ça, donc j'ai dû rentrer à Paris, et à Paris c'est déjà plus compliqué pour moi d'écrire, je peux pas écrire ici, c'est impossible d'écrire chez moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Un endroit où j'écris beaucoup, c'est chez ma mère, dans l'endroit où j'ai grandi, dans un appartement qui a vu mon adolescence se faire. J'écris vachement bien chez elle, donc j'ai beaucoup écrit là-bas. Et puis sinon, je vais souvent en terrasse de café, très tôt le matin. J'écris pendant 4 ou 5 heures, et après l'après-midi, je fais ce qui me rapporte de l'argent, c'est-à-dire le reste de... Parce que c'est pas via... grâce à ça que je gagne ma vie pour l'instant.
Tu gagnes de l'argent.
Pardon.
Mais t'inquiète.
Non, c'est non Fabrice, il faut que je peux me frapper. Non, fais pas ça. Mais... Mais donc voilà, j'écris en tout cas le matin, ça c'est sûr, mais j'aimerais pouvoir dire que j'écris tous les jours, que j'écris avec une discipline de fer, c'est pas vrai. Il y a eu des moments où j'ai pas écrit pendant des semaines, il y a eu des moments de où j'étais déconfite absolument, bah notamment parce que j'ai fait la connerie de faire lire quelques pages à ma mère qui m'a dit qu'elle avait détesté, ça m'a mais bloqué absolument, du coup pendant 3 semaines j'ai pas pu écrire. Voilà,
on en reparlera dans le prochain épisode.
Mais en tout cas tu vois, là mon prochain roman va se passer à Anchorage en Alaska, et j'ai prévu d'aller y passer 2 mois là bientôt, et à la fin de la promotion de mon livre, etc., pour que je puisse vraiment me concentrer sur les jours mauves. Mais après je vais aller à Anchorage, et en tout cas je sais que si je veux vraiment produire quelque chose qui moi me semble intéressant et plein d'images et tout, j'ai besoin d'être ailleurs. Et ben notamment c'est en partie pour ça que j'ai acheté ma maison à la campagne, c'est parce que c'est un super lieu d'écriture, et toute la réécriture de mon roman, parce qu'évidemment un roman ça s'écrit, il faut d'abord écrire une première version, mais le gros du travail c'est réécrire, c'est pas écrire la première fois. Et il y a eu 3 ou 4 grosses réécritures, je les ai toutes faites à la campagne, dans ma maison, au coin du feu, mais en tout cas j'ai besoin d'être dans un endroit un peu spécifique et pas chez moi, là où il y a le bouillon du quotidien, tu vois.
Ok. Et
ça répond à ta question.
Ouais, bien. Et en fait j'allais juste te demander, ta maison de campagne pour le coup, même si c'est chez toi, c'est moins chez toi que ici dans ton appartement à Paris, c'est ça?
Mon appartement à Paris, c'est vraiment l'endroit où je travaille pour gagner ma croûte.
Ok.
Et tu vois, c'est à ce bureau-là souvent que j'écris des articles, parce que je continue un peu à piger. Ouais. C'est là que je donne mes cours d'écriture, car j'ai des ateliers qui s'appellent Le Cas, co-créés par Mimi Hegel, tous les lundis soirs de 19h à 21h en ligne. C'est là que j'écris mes podcasts, que je monte mes podcasts par ailleurs. Enfin, tu vois, que j'écris mes scénarios. Et pour moi, je fais vraiment le distinguo entre mon travail, un peu mon labeur quotidien, celui qui me rapporte des sous tous les mois, et le travail de l'écriture du roman, qui pour moi relève du plaisir. Et pour ça, j'ai besoin d'être dans un endroit plaisir, c'est-à-dire pas ici, avec mes chats qui crient, enfin bon bref.
Je comprends. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, sur le sujet de l'écriture en particulier? Ton rapport à l'écriture?
Je réfléchis, mais j'ai l'impression qu'on a pas mal...
Ouais, un peu...
C'était trop du coq à l'âne?
Pas du tout.
Non?
Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on a un peu traversé un grand panel, je trouve, de plein de sujets, donc c'est cool.
Oui, j'ai l'impression aussi. Non, le truc sur lequel je voudrais juste insister, c'est peut-être pas utile, mais je sais pas pourquoi les gens ont ce cliché des gens qui écrivent et qui ont besoin d'aller mal pour écrire, parce que c'est moi, pour moi, c'est quand j'ai commencé à aller bien que j'ai pu écrire quelque chose qui me plaisait. Et je pense que c'est porteur d'espoir. De se dire que non, mais tu vois, de se dire qu'il n'y a pas besoin d'aller mal et d'être torturé, de se mettre dans des états pas possibles pour écrire des choses intéressantes. En fait, de beaux projets peuvent naître de beaux états et du fait d'aller bien, quoi. Donc,
Mais j'ai un peu l'impression, peut-être que je me trompe, mais que t'as trouvé ta voix, VOX, VOIE, et que, comme tu disais tout à l'heure, c'est hyper clair. Mais c'est, ouais. Tu vois, sans vouloir tomber dans l'ésotérisme, c'est comme si t'avais trouvé ta lumière, quoi, tu vois. Et qu'en fait, c'est simple, ça. T'as plus qu'à la suivre maintenant.
Bah, c'est ça.
Et donc, forcément, ça va bien parce que c'est fastoche.
Exactement. Parce que je suis là où je dois être, quoi. Mmh. Et je remarque que depuis que j'ai ça, depuis que je suis alignée avec mes désirs professionnels, c'est même pas professionnel parce que c'est. Enfin, ça va au-delà, tu vois.
Oui, oui.
Mais du coup, tout va mieux partout ailleurs. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi.
Ah, bravo.
C'est un chemin, mais. Et je pense que écrire. Enfin. Je racontais ça l'autre jour aux élèves que j'avais le lundi, là. Je disais, moi, j'ai fait mon deuil. Mon roman, c'est mon deuil. Mais ça a été un deuil joyeux. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur le côté on peut écrire des choses et aller bien. Enfin, voilà.
Ouais.
Parce que pour moi, ça a été réécrire mon père. Ce livre, on en parlera plus tard, mais il parle de mon père. Mais il parle pas de mon père, à la fois. Parce que mon père, dans ce livre, n'est pas mon père dans la réalité. Il m'a permis de réécrire l'histoire de mon père, de réécrire mon histoire avec mon père, et du coup, de me réconcilier. Et bah, qu'est-ce que je peux me souhaiter de mieux, tu vois ?
Bah oui, rien du tout. Et en fait, la vie est longue, et tu vois, peut-être qu'il y aura des moments où ce sera plus dur pour toi, et que tu utiliseras peut-être
bien
l'écriture
sûr.
Comme une catharsis, comme tu l'as fait quand tu étais adolescente. Et en fait, quoi qu'il arrive, l'important, c'est juste qu'à un moment donné... il y a des gens pour te lire et qu'il y a des gens pour déjà pour que tu le fasses toi et que ça te donne envie. Je trouve aussi qu'il y a des gens pour te lire et que ça parle, quoi.
Ouais.
Que ça parle.
Exactement.
Bravo, Cal.
Merci, Fab.
Rendez-vous dans le prochain épisode, alors. Hein.
Yes.
On va parler de ton roman.
Yes.
Que j'ai pas lu.
Waouh.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.